One, two, get down.
Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop.
Pay the cost to be the boss. Pay the cost to be the boss. I pay the cost to be the boss.
Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Thérapie Pop, l'émission qui explore avec vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Si je commence à patiner dès les premières phrases...
C'est chaud.
Ouais, on est mal barré, Gauthier.
Ouais, ça va être long.
Comme à l'accoutumée, c'est de Gauthier, vous l'avez entendu, que je suis accompagné pour la thérapie de cette semaine. Salut Gauthier.
Salut Théo, un Gauthier inquiet vu ta locution de la journée.
Allez, ça ira mieux demain.
Allez.
Si Dieu veut. Et dans l'émission de ce jour, on va se pencher sur un morceau iconique des années 2000, pondu par un groupe auquel on promettait, hélas à tort, un avenir merveilleux. Ce groupe, ce sont les Dandy Warhols, emmenés par leur leader Courtney Taylor. Alors, on va le voir durant cette émission, ce groupe de Portland est indissociable d'un autre groupe de San Francisco, lui les talentueux bonshommes de Brian Johnston Massacre. Mais revenons au morceau dont il est question. Ce morceau, c'est Bohemian Like You, qui est sorti sur l'album 13 Tales from Urban Bohemia. Et si je vous disais que le Brian Johnston Massacre nous vient de San Francisco, c'est bien sur la scène de Portland que tout ce petit monde s'est révélé, Gauthier.
Oui, on est dans les années 90, effectivement, et il y a deux groupes qui trustent, entre guillemets, la scène de Portland, les Dandy Warhols, les hédonistes, les Artie, ceux qui veulent aussi faire un peu de blé.
Ouais,
et
réussir.
Voilà. Et à côté, le Brian Johnston Massacre, qui, de toute évidence, n'est pas animé par les mêmes intentions de réussite.
Les poètes.
Voilà, mené par un Anton Newcomb, génie autodestructeur, obsédé par la pureté artistique. Spoiler alert, il ne fera pas une très grande carrière, quoique, lui, sa discographie soit nettement plus intéressante que celle des Dandy Warhols.
Exactement. On va en reparler un tout petit peu. C'est le moment, Gauthier, où tu vas aborder le documentaire Dig, le film culte des années 2000 réalisé par l'américaine Ondi Timoner et dont je vous recommande, mais vraiment de toute urgence, le visionnage si vous ne le connaissez pas.
Oui, parce que quand bien même vous n'aimeriez pas les Dandy Warhols, c'est que vous ne connaîtriez pas le Brian Johnston Massacre, la chose inverse serait plus compliquée. Allez voir quand même le film Dig, qui est absolument hilarant, ne serait-ce que pour voir Anthony Newcomb se battre contre ses CD, se battre contre ses compositions à la sitar dans des appartements vides. Enfin, c'est ouais. Incroyable. Et puis c'est la jalousie, l'amour entre ces deux groupes qui tout à la fois se détestent mais s'admirent les uns les autres. Les Dandy Warhols admirant la créativité du Brian Johnson Massacre. Le Brian Johnson Massacre admirant le fait que les Dandy Warhols ont du succès purement et simplement.
Ouais, mais je suis même pas certain qu'Anthony Newcomb admire ça.
Je sais, alors je pense que si tu lui avais filé $100, il aurait été content quand même.
Oui, voilà.
Parce que quand tu vois les conditions dans lesquelles il vit, le pauvre. Enfin, ouais. Bon, voilà.
Ouais, t'as une petite citation d'ailleurs de Courtney Taylor, le leader des Dandies.
Anton was the chaos. We were the order. Tout est dit. Hein. Anton, c'était le chaos. Et nous étions l'ordre. Il ouais. Y avait un projet commercial plus affirmé, on va dire, que les Dandy Warhols.
Définitivement. D'ailleurs, Bohemian Like You, qu'on va s'écouter dans quelques minutes, c'est ce bon Courtney Taylor qui l'a composé. Qu'est-ce qui l'a inspiré, Gauthier?
Une meuf, avec une grande originalité dans la musique rock. Hein. Je pense que ça gouverne 90% des chansons.
J'ai déjà entendu cette histoire.
Dans une scène proche, tu sais, de celle qu'il y a de Brad Pitt, là, dans le film de Tarantino, là, Once Upon a Time in Hollywood, puisqu'il voit une jeune femme arrêtée à un feu.
Ah, ouais.
Et ça lui inspire, tu sais, cette hippie, là.
Elle est extraordinaire, cette scène.
Et
Brad Pitt est très sage.
Et cette femme est extraordinaire aussi. Et effectivement, il voit cette jeune femme arrêtée.
C'est Sweeney.
Je sais plus comment elle s'appelle.
Sweeney. Ah. Sweeney.
Je sais pas.
Bon.
Sweeney Todd. Non, c'est un film pourri. voilà, et donc derrière, il va composer cette chanson. Bon, la jeune femme, et je suppose un prétexte comme un autre pour composer un truc, ça sera fait de sarcasme, d'admiration, d'autodérision. L'idée, c'est de faire une chanson sur le mode de vie rock bohème, quoi.
Ouais. Et dans les paroles de ce morceau, Courtney se moque beaucoup de sa génération, peut-être en oubliant de faire un peu son autocritique.
Oui, de toute façon, le personnage n'est pas forcément extrêmement adorable, hein, Courtney Taylor.
Non.
Quand tu vois ses clips, etc., tu vois qu'il a un melon effectivement absolument monumental. Et il va s'inspirer d'une production, j'enchaîne mon chapeau parce que je te vois chercher.
Ouais, c'est Margaret Qualley.
Rien à voir donc avec
ça. Rien à voir.
Il va chercher à s'inspirer aussi de quelque chose d'assez efficace pour la production, pour être sûr de bien vendre. avec un peu du son des Rolling Stones époque Sticky Finger, du Iggy Pop période Trainspotting, hein, enfin l'album s'appelait, putain, j'ai plus la référence non plus, l'album jaune là, c'est pas The Idiot, c'est ben, je l'ai plus, mais si c'est The Idiot,
oui, me semble, oui, c'est The Idiot, ouais.
Il va s'inspirer aussi du Lou Reed de période Transformers, etc., pour essayer de créer quelque chose à barre de guitare garage, de batterie sèche, d'un son volontairement un tout petit peu crade, mais tout en demeurant remarquablement calibré pour être un tube, ce que ce sera au demeurant.
Et on vous parlait de Dig il y a quelques instants, c'est aussi dans ce documentaire que l'on voit les relations entre Andy Warhol et le BJM, donc le Brian Johnston Massacre, se détériorer, notamment lorsque Bohemian Like You devient un tube. Il faut savoir qu'Anton Newcombe, leader loser du BJM, a participé à l'enregistrement de cet album d'Andy Gauthier, jouant notamment les cordes sur le chouette morceau Get Off.
Oui.
Dont je vous recommande fortement l'écoute.
Et de citations de l'un et de l'autre, Anton Newcombe dira: The Dandies stole spotlight that should have been ours, hein, toujours cette espèce de jalousie, ouais, autour de la réussite des uns. Et de Courtney Taylor dira: Anton was the most talented musician in town. Là aussi, une admiration pour le talent de compositeur.
Termine la citation.
But we were the ones who show up on time.
Voilà, donc Anton était le musicien le plus talentueux de la ville. En revanche, nous, on était les seuls qui se pointaient à l'heure pour enregistrer.
Je doute pas une seule seconde qu'Anton ait du mal.
Moi non plus.
Pour la petite anecdote, Théo et moi, nous avions fait un concert du Brian Johnson Massacreur qui, je pense, avait duré au bas mot 6 heures.
Oui, puisqu'il avait déjà commencé avec 2 heures de retard.
Oui, et puis qu'à 3 heures du matin, quand on est parti, il continue à jouer,
oui,
sur scène.
C'est vrai. Bon. C'est vrai.
Un homme qui se donne à son art dans un bar pourri à l'extérieur de Toulouse.
Qui n'existe plus.
Oui, en plus.
Ouais. On s'écoute, Bohemian Like You.
Avec plaisir, parce que ça reste une vachement bonne chanson.
Bah oui. On est d'accord, Gogo, c'est bien un tube, hein.
Ah oui, ça fonctionne.
Ça fonctionne bien, ouais. Est-ce que tu pourrais nous le décortiquer très rapidement à ta manière ?
Bah, tu le disais, mon cher Théo, une chanson qui se veut une critique de quelque chose dont les Andy Warhol sont absolument la quintessence, c'est-à-dire une fascination pour la personne très cool, tout en se moquant, on va dire, du lifestyle pseudo-marginal. En gros, je te la fais courte, mais l'idée, c'est je suis bohème, mais en fait, au fond, je suis vide, très narcissique, très commercial. C'est exactement ce qu'on l'ont les Andy Warhols. Donc, c'est assez marrant de se faire un auto-pied de nez comme ça. C'était ce qu'on appelle un but contre son camp.
C'est ça, ouais. Courtney Taylor oublie qu'il appartient entièrement à ce monde qu'il dénonce.
Et il aura une carrière d'ailleurs en peau de banane, puisque après le succès commercial, il n'en fera quasiment plus rien.
Et justement, c'est leur album suivant, Welcome to Monkey House. Dont la banane et la pochette d'ailleurs, il me semble.
Du Velvet Underground.
Il y a deux morceaux à sauver, et à partir de là, il n'y a plus rien.
Alors sur tous leurs albums, de toute façon, il n'y a jamais que deux ou trois chansons à sauver, parce que, quoi que celui-là encore est pas mal, est pas mal. Mais le premier
était pas mal quand même, Ride.
Il y avait la chanson extraordinaire là, qui a un nom improbable, c'est If You Are the Last Junkie on Earth,
exactement,
qui est extraordinaire.
Dandy. Et Antonio Combe avait sorti
qui est vachement bien.
Gogo, dis-moi, les Dandy, tout comme le BJM, avaient leur petit succès sur la scène locale, voire nationale. Comment est-ce qu'ils vont décoller façon navette spatiale?
Alors, pour le Brian Johnson Massacreur, ça ne sera jamais le cas.
Non.
Pour les Dandy Warhols, il faudra notamment une pub, parce que Bohemian Like You, malgré son côté extrêmement catchy et efficace, va complètement passer sous les radars au moment de sa sortie. Et c'est Vodafone qui va l'utiliser dans une pub en 2001. Et là, c'est l'explosion des ventes absolument immédiate. Ils seront notamment numéro 5 au Royaume-Uni, ce qui est toujours une belle performance pour un groupe américain. Mm-hmm. Courtney Taylor, qu'est-ce qu'il est chiant avec son nom, Taylor, c'est insupportable. Avouera, je crois que ça s'appelait pas comme ça au départ, je crois que ça s'appelait Courtney Taylor en plus. We went from indie darlings to a band moms knew the name of. On était, on va dire, des indie, les chéries indie, quoi, et on est devenu le bon gros groupe dont tout le monde connaissait le nom.
Même les mamans.
Voilà.
Et c'est à ce moment-là que la rupture sera consommée avec le Brian Johnson Massacre. On le rappelle, juste, il y avait la signature avec Capitol, qui avait complètement propulsé les Dandies. Et donc rupture consommée avec le Brian Johnson Massacre, notamment avec Anton Newcombe, qui sortira une phrase culte et digne des plus grands beautiful losers de l'histoire, dont il fait évidemment partie, hein.
While you cash checks, I'm changing music. Quand tu prends des chèques, moi je change la musique. Alors c'est pas vrai, Anton, tu n'as changé la musique absolument pas. T'as une carrière vraiment marrante, mais on peut pas dire que tu sois un grand révolutionnaire non plus.
Mais beautiful loser par excellence, quoi.
Complet.
Et ce son bien cracra, il est dû à l'influence des plus grands dont on parlait tout à l'heure, mais pas que. Gauthier, c'est aussi, comme d'habitude, j'ai presque envie de dire, une histoire de mauvaise manipulation à la base.
Et alors ça rend l'anecdote un peu marrante, parce que ça place quasiment les Dandy Warhols comme des musiciens, ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont au démarrage. Effectivement, l'orgue Hammond, qui joue un rôle fondamental dans la chanson, au départ était mal réglé, donc l'ingénieur son a voulu corriger ça, et c'est Courtney Taylor, qui parfois peut avoir une fulgurance, qui a dit « No, leave it, ça me plaît », puisque ça sonne entre guillemets comme de la drogue,
comme si les cordes étaient bourrées.
Voilà, absolument. Ouais. Et donc voilà, c'est une petite signature de la chanson, et la preuve que Courtney Taylor, sous ses airs de petit con, peut quand même poser une petite patte artistique sur quelque chose.
Écoute, il semblerait.
Voilà.
Et si le morceau a été enregistré il y a plus d'un quart de siècle, ce qui ne nous rajeunit pas,
oh, putain.
son succès ne se démonte toujours pas, Gauthier.
Oui, alors chez NME, magazine anglais, c'est dans le top 100 des Tracks of the Decade, ce qui est quand même une belle réussite. Et plus étonnant, dans le magazine Pitchfork, qui est quand même spécialisé dans la musique très indie, très presque un peu trop intello parfois, ça fait partie des meilleures chansons de la décennie des années 2000. Donc ça reste quand même, pour tous les enfants des années 2000 que nous sommes, mon cher Théo, non pas qu'on soit né dans les années 2000, mon grand, mais on avait l'âge d'écouter du son dans les années 2000, nous, sinon on écouterait du Jul actuellement. Et bien ça reste une chanson très importante de cette époque, avec Interpol, Les Strokes, etc. Mais ça, on en reparlera ce mois-ci.
Dans pas si longtemps. L'émission touche à sa fin, chers auditeurs, vous l'aurez compris, les Dandy Warhols ont pondu leur dernier tube il y a 26 ans, et ça a brisé leur relation déjà schizophrénique avec le Brian Johnson Massacre. Sachez que nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thérapie, et nous irons encore plus loin dans la musique commerciale, nous creuserons dans les profondeurs du mainstream, puisque nous partirons à la rencontre de James Blunt.
C'est pour voir si on dépasse les 4 vues avec James Blunt.
Je vous rappelle enfin que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence et des radios partenaires, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
Salut.